I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Jean-Frédéric. Réalisation Thomas Baume. Autour de moi, ce soir, Emmanuel Giuliani, Anna Sigalevich et Sophie Bourdet. C'est une première pour Sophie qu'elle soit la bienvenue dans cette émission. À notre programme, Orphée et Eurydice de Gluck, direction Raphaël Pichon, mise en scène Aurélien Boris. C'est en ce moment l'affiche de l'Opéra Comique et ce sera diffusé sur Arte, concert après-demain. Mephistophélé d'Arrigo Boito, direction Daniele Rustioni, mise en scène Alex Olé et la Foura d'Elbaus, c'est à l'Opéra de Lyon. Puis deux disques à notre programme. Nous parlerons ensemble du nouveau disque de Leif Ove Andsnes, les ballades et nocturnes de Chopin chez Sony Classical. Et puis Anna Sigalevich délivrera son coup de cœur pour un disque de Bertrand Chamaillou qui a gravé les concertos de Saint-Saëns. Ça, c'est chez Erato. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Un jeu de circonstances, des invitations pour la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain, qui ouvre ses portes jeudi et jusqu'à dimanche. C'est au Grand Palais. Quand un compositeur de génie livre un opéra sur un des plus beaux mythes qu'il soit, il faut que la direction musicale, chant, mise en scène soit à la hauteur. On ouvre cette dispute avec Orphée et Eurydice de Gluck et donc cette question. L'Opéra Comique a choisi de confier à Aurélien Bory la mise en scène de ce drame d'amour. Aurélien Bory qu'on connaît pour son travail sur l'espace entre art du cirque, danse et théâtre. La direction confie à Raphaël Pichon et puis un trio de voix féminines, Marianne Crébassa, Hélène Guilmette et Léa Desandres, puisque la version ici choisie est celle remaniée par Berlioz au 19e siècle, où le rôle d'Orphée est confié donc à une mezzo-soprane. À la création, rappelons que c'était un contratto castra, c'était au Burgtheater de Vienne, nous n'y étions pas. Petit rappel, au début de l'acte 1, Orphée, le cœur se lamente près du tombeau d'Eurydice. Orphée reste seul, choisi de mettre fin à ses jours, puisque avant que Amour lui explique qu'il pourra récupérer Eurydice, à la condition, bien sûr, qu'il ne regarde pas son épouse lors du trajet de retour à travers les enfers. Est-ce que je dois divulgâcher la suite? Pas sûr. On va plutôt écouter un extrait de cette production.
Thank you.
Voilà pour cet extrait. Alors pour le coup, assez long, bien enregistré, l'opéra comique a entendu les réserves qu'on pouvait parfois avoir sur les sons qui nous étaient confiés pour diffusion à la radio. Donc bravo pour cette qualité sonore. Maintenant, on va parler de ce qu'on a peut-être d'abord, alors quoi, entendu. Vous avez envie de commencer par quoi, Emmanuel Giuliani?
Peut-être parce que nous avons entendu. Allez. Parce que j'avoue que donc j'y étais comme vous ce dimanche et c'était quasi, et même on peut enlever le quasi, une perfection sonore. Vraiment, tant au point de vue de la qualité orchestrale, la direction de Raphaël Pichon, à qui ce type de musique convient extrêmement bien, parce qu'il en explore toute la gamme des nuances, notamment, hélas, un abominable tousseur que j'aurais volontiers précipité aux enfers et surtout que aucun Orphée ne vienne le tirer de là, à tousser alors qu'on en était à je ne sais pas combien de décibels, à peine, vraiment, à cette frontière entre le silence et le son. C'était absolument extraordinaire. Et Raphaël Pichon, tout le long de la partition, tout le long du spectacle, nous donne des moments de plénitude et de volupté sonore incroyable, en maîtrisant cette acoustique pas facile de l'opéra comique qui par moments sature, là jamais, même dans des grands éclats de cuivre très impressionnants, où les cuivres se lèvent d'ailleurs comme un seul homme pour que leur pavillon soit dirigé jusqu'au cintre, enfin jusqu'au poulailler plutôt, et puis aussi donc des nuances impalpables, le chœur de la même manière absolument extraordinaire. Le tout petit bémol, c'est que je rêvais, je me dis avec Pygmalion ça va être ça, au moment des ombres furieuses, d'entendre les noms parfaitement au taquet. Et là, c'est pas du tout la faute des choristes, mais comme ils sont allongés par terre, ils ne doivent pas bien voir le coup de la direction de Raphaël Pichon et les noms sont pas parfaitement... Ouais. Voilà. Si on devait dire la fameuse marge de progression, comme dans les trucs d'entreprise, là, où on dit aux gens leur marge de progression, ça serait celle-là. Bon bah. Mais je pense qu'elle n'est pas musicale, elle est plutôt dans le dispositif scénique. Et puis vocalement, c'est très bien. Marianne Crébassa a ce rôle vraiment pour elle, parce que le côté androgyne de sa voix, la souplesse, le volume qu'elle prend de plus en plus, notamment dans le médium et dans le grave, conviennent très bien. Hélène Guilmette, qui était annoncée souffrante, a été une Eurydice parfaite, à la fois extrêmement féminine, fruite. C'est une Eurydice qui a déjà vécu. Donc le couple qu'elle forme avec Orphée n'est pas un couple de jeunes tourteaux qui vient de découvrir l'amour. On sent que cette perte est d'autant plus cruelle qu'il s'est déjà passé une très belle histoire entre eux. Ça, c'est très touchant. Léa Dezande, comme toujours, est parfaite dans le tout petit mais très important rôle de l'amour. Donc, musicalement, 19,99999 sur 20.
Ah bah dites donc. Sophie Bourdet, vos impressions là aussi sur ce qu'on a entendu?
Entièrement d'accord avec Emmanuel. Moi, j'y étais le soir de la première. Donc, les réserves que vous avez sur le nom, puisqu'on est dans la version française, je ne les ai pas. J'ai trouvé que c'était
ce soir-là,
bien calé.
C'était calé.
Et pour le reste, c'est absolument merveilleux. On a un orchestre qui est dans un plaisir manifeste, une jubilation totale de nous proposer cette musique. Et j'étais en corbeille, donc j'étais un peu au-dessus du chef. Le moment absolument extraordinaire orchestralement de la danse des furies. On avait l'impression que le chef ne donnait Orphée que pour avoir le plaisir de diriger ce moment-là. C'était absolument extraordinaire. Marianne Crébassa, dès le début, elle a imposé son Orphée. Elle a effectivement cette voix très généreuse, un peu cuivrée, un tout petit peu nasale, mais c'est pas du tout gênant. Ça accentue le côté androgyne. Elle est absolument extraordinaire. Léa Desandré, ce que j'admire beaucoup, c'est qu'on lui fait faire beaucoup d'acrobaties dans cette mise en scène et que la ligne de chant n'en souffre pas, même si on sent quelquefois une petite libération quand on la repose par terre.
quand même.
Mais c'est extrêmement beau ce qu'elle fait. Et Hélène Guilmette, alors il y avait peut-être une petite fragilité dans son tout premier air, mais qui était peut-être due aussi, on reparlera de la mise en scène, au cadre, au Paper Ghost qui installe un filtre en fait, qui est aussi un filtre acoustique. Donc on n'est pas forcément sûr que ça soit lié à une fragilité vocale, c'est peut-être juste ce moment-là qui nous fait entendre ça d'une manière un peu assourdie. C'était merveilleux.
Vraiment. Alors, est-ce qu'il y aura des écarts avec vos camarades, Anna Segelevitch, dans vos propos sur la musique?
Non, pas du tout. Bon. Vraiment, je pense que cette production, la grande, très très grande réussite de cette production, elle est musicale. Donc c'est la version de Berlioz, comme vous le disiez, Arnaud. qui en plus a été un petit peu modifié hein, par Raphaël Pichon. Alors parce que ce que je trouve intéressant, c'est que la réalisation est formidable, mais l'entreprise aussi est formidable, parce que donc en fait il enlève cette ouverture habituelle pour la remplacer par un larghetto, donc un mouvement lent qui n'a pas du tout la même énergie que ce qu'on entend habituellement, qui est extraite de Donjon ou du Festin de Pierre de Gluck. Et la fin n'est pas non plus la même, mais ça je ne la divulgacherai pas pour employer vos mots, cher Arnaud.
Ah, c'est juste français, vous savez, rien d'autre.
Voilà, donc, ça je ne dirai pas, mais c'est très important parce que ça nous plonge tout de suite dans une
atmosphère. C'est autre chose que l'ouverture habituelle de la version Berlioz, qui est effectivement un peu légère. Comme
là, il y a de la gravité.
Comme si on allait s'amuser.
Il y a quelque chose de.
C'était guère le cas.
De sombre tout de suite. Hein. D'ailleurs, dans le Don Juan ou le Festin de Pierre de Gluck, ce passage porte la didascalie, un endroit destiné à la sépulture de personnes de distinction. Ce qui est tout à fait cohérent et qui fonctionne. Voilà. Après, ce qui est. Vraiment, je suis comme mes camarades, très impressionnant, c'est la beauté de chaque pupitre, de tout. C'est-à-dire la profondeur des cordes, c'est très chatoyant, les vents sont d'une subtilité totale, le solo de flûte est absolument magnifique. C'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Et puis, les cuivres hurlent. Donc on a aussi ça, on a vraiment plein de niveaux différents. On n'est pas dans le raffinement, non. On est dans la matière, dans la profondeur.
Dans le drame.
Et en même temps, tout ça avec une subtilité, tout en dentelle. Donc, on a tous les niveaux, en fait, de volume et de subtilité, de nuances possibles et inimaginables.
Je vais interrompre un petit peu parce que cette unanimité
est fatigante pour une
personne. Non, pas du tout, mais je vois que l'heure tourne déjà. Il y a quand même pas mal de choses à dire, me semble-t-il, sur la mise en scène et puis sur le reste de notre programme. Moi, je veux dire que Marianne Crébassin, ça fait longtemps que je n'avais pas été autant ému par quelqu'un chantant sur scène. Moi, j'ai trouvé absolument bouleversante de bout en bout. Et bon, donc je ne rajoute pas tout ce que vous avez dit.
Mais peut-être qu'on peut parler juste de cette cadence de
Non, non parce qu'il est 19h18 et que le programme est chargé, Anna Segalevitch. Et qu'après, vous me reprocherez de ne pas avoir eu de temps pour parler de Bertrand Chamaillou. Pour parler de... Non, mais ce n'est évidemment pas pour vous frustrer, mais pour donner davantage de désir encore à nos auditrices et auditeurs d'aller voir et entendre par eux-mêmes. Sophie Bourdet va nous parler effectivement de ce dispositif scénique et de... Alors pas ses premiers pas, parce que Aurélien Bory avait signé précédemment une première mise en scène lyrique, là c'est sa deuxième. Moi je n'avais pas vu sa première production lyrique. Qu'est-ce qu'on voit
quand on voit
à l'opéra comique?
Eh bien on a sur ce plateau pas grand-chose au début, mais il y a ce cadre qui est un miroir. Qui peut être un miroir, qui ne le sera pas tout le temps. Et ce miroir change complètement les perspectives, c'est-à-dire qu'il nous fait voir à la fois... ça va être compliqué à expliquer.
Ah ouais, c'est un grand panneau qui va se lever doucement.
Qui est légèrement incliné.
Cette autre ouverture.
Et qui réfléchit le sol. Et sur le sol, il y a la reproduction d'une toile de Jean-Baptiste Corot, qui est Orphée allant chercher Eurydice aux enfers. Et grâce à ce miroir... Ce tableau se retrouve en fond de scène et les personnages, finalement, les protagonistes vont se retrouver... on va avoir une double lecture scénique puisqu'on les voit comme sur une scène normale, mais on les voit aussi contre ce tableau qui est en fond de scène et ça démultiplie complètement l'espace.
Oui, parce que ce panneau, il est absolument gigantesque. Hein, il fait vraiment toute l'ouverture de la cage de scène de l'opéra comique et même un peu plus parce qu'il y a une manipulation assez particulière. Et évidemment, Aurélien Bory n'est pas venu tout seul. Hein, il n'y a pas seulement les solistes et le chœur. Il y a aussi des interprètes danseurs et danseuses qui complètent cette distribution. On n'a pas dit aussi que... Le chœur est quand même lui-même mis à contribution. Il le fait remarquablement bien, parce qu'on sait la difficulté de faire se mouvoir des chœurs d'opéra quand il n'y a pas le génie de la musique et de la mise en scène. Là, c'est vraiment pas le cas. Emmanuel Giuliani regarde cette production du niveau de la mise en scène.
Oui, alors c'est vrai que c'est un dispositif illusionniste hérité du 19e siècle et qui convient très bien quand il s'agit de représenter de manière fictionnelle, mais profondément émouvante, il faut qu'on y croie, un double monde, le monde d'ici et le monde des enfers. Personnellement, j'ai trouvé que ça marchait très bien pour le monde d'ici, parce que à cause de ce double point de vue qui donne un peu l'impression que les protagonistes sont filmés par avion d'en haut, ça permet de jouer notamment avec ce tapis tableau au sol et d'en faire des espèces de tâches comme il s'appelait, on faisait lire aux gens pour des trucs psychologiques.
Là.
Voilà, exactement. On se demande s'ils sont en train de former un motif à l'encre noire. Enfin, il y a de très très belles choses. En revanche, j'ai trouvé que pour la partie en fer, où le cadre s'inverse et devient un filtre et est censé nous donner l'impression d'avoir des spectres, alors peut-être est-ce un problème de vue, peut-être est-ce parce que le spectacle étant plongé dans une quasi-pénombre du début à la fin, il y a une mauvaise accoutumance. J'ai trouvé que là, c'était un peu beaucoup de dispositifs, finalement, pour pas grand-chose au point de vue impression. Donc, je dirais que ça marche sur la Terre, ça marche moins bien aux enfers, et j'attends encore une mise en scène d'Orphée, que ce soit l'Orfeo de Monteverdi ou celui de Gluck, qui nous donne cette vraiment impression d'un double monde. Là, je trouve que ce n'est pas très convaincant, et en tous les cas, j'ai pas été précipitée dans une autre dimension totalement créée par la musique, pas par la scène en ce qui me concerne.
C'est vrai que la grande réussite, mais Alain Segalji, je vais vous donner la parole, c'est les deux premiers actes, à l'évidence. Moi, j'aime quand même beaucoup le passage, l'entrée dans les enfers, puisque ce grand panneau va basculer et que Orphée va marcher, donc passer de l'autre côté, et le panneau se referme, et ça, c'est quand même un geste qui est absolument magnifique. Alors, c'est vrai que je me suis interrogé notamment sur l'acte 3, parce que plus que l'enfer, c'était plutôt les limbes que moi j'ai vus, avec ces ombres blanches évanescentes. Anna Segalevitch, vous avez
oui,
vu comment?
Oui, avec des ombres blanches, avec des néons comme ça qui apparaissent comme une forêt, et puis les personnages qui sont comme dématérialisés. Ça, c'est visuellement, c'est quand même très très beau, je trouve.
Un poil plus éclairé, je suis d'accord avec Emmanuel Giuliani.
Voilà, quand même très ténu, et je pense que les gens qui n'ont pas la chance d'être comme nous, placés bien en face, n'y auront vu que pouic.
Oui, peut-être, mais quand même, subtil, quand Marianne Crébassa a cette air qu'elle est portée, donc elle est légèrement en hauteur et qu'on voit uniquement son buste et pas ses jambes, je trouve c'est quand même très beau. Voilà. Mais, voilà, moi j'emploie le terme beau, parce que je trouve qu'il y a de très belles images, de bout en bout, la descente de Rudis dans son tombeau, ce tableau beau, qui apparaît, effectivement, ce côté un peu wellsien du personnage qui passe de l'autre côté du miroir quand elle monte de la fosse pour entrer sur scène. La fin est absolument magnifique et rattrape beaucoup de choses d'ailleurs pour moi en termes de mise en scène. La dernière image que je ne dirai pas, mais qui pour le coup a beaucoup de sens. Mais sinon, pour moi, il y a trop d'images et pas assez de théâtre, je dois dire. C'est-à-dire que je trouve qu'on est plus occupé à regarder le dispositif scénique, qui est certes très beau, certes très inventif, etc., mais que ce dispositif prend le pas sur ce qui se joue et sur les personnages. On se concentre plus sur ce qui se passe en scène que sur ce qui se raconte.
Oui, mais ça correspond au travail d'Aurélien Bourré, que vous connaissez par ailleurs. C'est quelqu'un qui fait des images.
Mais c'est une réflexion que je me fais dans tous ces spectacles, dans Plan B, dans Espèce. J'avais ressenti la même chose. Il y a un talent.
Et il a travaillé, Aurélien Bourré.
Comment?
Il a travaillé sur cette production. Enfin, ça se voit.
Il a beaucoup travaillé. Non, mais il a beaucoup réfléchi.
On a vu d'autres personnes venues hors du monde direct, travailler beaucoup moins. Là, il y a vraiment une précision.
En plus, c'est totalement silencieux.
Oui, absolument.
Et ça, c'est très appréciable. On va parler d'un autre spectacle où ça fait un raffut du diable, le dispositif. Là, c'est le cas de ça, c'est formidable.
Non, mais la mise en scène ne nuit pas à la musique, incontestablement. Mais, par exemple, je trouve que le personnage de Rydis est un peu empêché quand elle est sur cette espèce de plongée de soie où elle est manipulée dans ce grand duo qui est quand même...
Son costume ne l'aide pas.
Voilà, son costume ne l'aide pas non plus.
Vous avez compris pourquoi elle est habillée comme ça?
Globalement, les costumes sont quand même le ratage esthétique.
Parce qu'une Rydis dame patronesse, on n'y croit pas du tout.
Emma, c'est bien
habillé. Je suis d'accord. Et donc voilà, c'est la réserve que j'ai. On est plus dans une forme d'esthétique que dans la narration dramatique.
Bon, beaucoup de choses positives ont été dites sur cette production qui le mérite bien, me semble-t-il. D'Orphée Eurydice, c'est à l'Opéra Comique jusqu'au 24 octobre et donc il y a une diffusion en direct sur Arte Concert le 18 octobre. J'imagine qu'après, donc on pourra toujours voir cette production en ligne. Et puis, il y aura une diffusion plus tard sur France Musique. Parce qu'on l'a dit, au niveau musical, je ne vous avais jamais entendu dire 19,99999.
Mais parce qu'on n'a pas parlé de Kirill Petrenko ensemble.
Ça doit être
pour ça.
Là, je
mets 20. Qui vient rarement.
Bon, on le note pour la prochaine fois. À suivre dans la dispute, Méphistophélée, en effet. Et puis, deux disques, un Chopin et un Saint-Saëns.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute musique avec donc une deuxième production lyrique à notre affiche que moi je n'ai pas eu l'heure de voir, je dis pas le bonheur hein. Pour l'instant, j'attends de vous entendre parce que c'est à l'Opéra de Lyon que l'on peut voir Méphistophélé d'Arrigo Boito sous la direction de Daniele Rustioni. Mise en scène, les habitués de Lyon, Alex Olé et la Foire d'Elbaus, mais Méphistophélé, c'est un opéra en un prologue, quatre actes et un épilogue. C'est le seul que son compositeur ait achevé. Il a été créé en 1868 à la Scala de Milan. Vu son titre, on peut imaginer, et je l'ai confirmé, que c'est issu du mythe de Faust. Et puis dire aussi que les deux premières représentations étaient un tel désastre que ça a été retiré de l'affiche, que Boito a retravaillé longtemps, a beaucoup réduit aussi la durée de l'opéra. Il a travaillé un peu toute sa vie, mais la version qu'on peut voir à Lyon, c'est celle de 1875. Celle-là, elle a connu un grand succès. On va entendre un extrait, l'air de présentation de Méphistophélé à Faust. Précision à cet enregistrement, c'était un enregistrement de la répétition générale de cette production de Méphistophélé. Précision que je viens d'apprendre pendant la diffusion de cet extrait, donc je m'empresse de communiquer au plus grand nombre. Sophie Bourdet, tiens, premier regard. Alors, est-ce que vous avez envie de commencer par la musique, par la mise en scène? Est-ce qu'il faut parler des deux ensemble? C'est vous qui savez, moi j'ai pas vu le spectacle.
Non, je commencerai plutôt par la musique parce que finalement c'est ce que j'ai préféré.
C'est bon.
Le soir de la
première. Vous
préférez
garder les pics pour la fin, d'accord?
Oui. Et oui. Et puis parce que on vient d'entendre cette basse, la John Rellier, qui est une basse canadienne, qui convient complètement pour ce rôle, qui est vraiment un casting idéal. On l'a entendu à Paris en Barbe Bleue, on a vu de quoi il était capable, mais il est vraiment très très bien. C'est le grand atout vocal du plateau, parce qu'on a un Faust chanté par Paul Groves qui est beaucoup plus inégal, dont la voix s'effiloche un peu au fil de la production et en même temps...
Au fil des années.
Au fil des années, ouais, et dans cette production, on a vraiment une évolution.
Ah, c'est criant. Hein.
C'est vrai.
Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, là.
Et bien ça se confirme. Écoutez, alors, comme Faust a tendance à disparaître au fil du spectacle, il y a une certaine cohérence qui, à mon avis, n'est pas voulue.
Non.
Mais finalement, heureusement que c'est Méphistophélée qui assure le plus, parce qu'en plus, Alex Oyer voulait que ça soit le personnage principal de cette production. Et on a une Marguerite qui est un peu insignifiante au début et qui s'épanouit un peu comme un vin qu'on laisserait respirer dans un verre et qui nous fait une scène de prison absolument bouleversante. Là, je dois dire que j'ai complètement changé d'avis sur elle en entendant sa scène de prison où elle tirerait des larmes. Bah d'ailleurs, elle tire des larmes à Méphistophélès.
Mais pas Anna Segalevitch, visiblement, vu la tête qu'elle fait.
Eh bien, nous allons donc
discuter. Vous l'avez pas vu le même jour, mais...
On l'a pas vu le même jour. C'est vrai que je l'ai vu hier soir. Non, moi, elle m'a pas du tout tiré les larmes. Je trouve qu'elle est pas très émouvante. Qu'elle a un vibrato, qu'elle a un vibrato qui est très très prononcé et que ça bouge tout le temps. Je trouve que la ligne n'est pas belle et son timbre ne me touche pas non plus. Pardon, hein. Non, mais parce qu'en plus, je veux dire, c'est pas une mauvaise chanteuse objectivement. Elle fait parfaitement les notes, elle fait ce qu'elle a à faire, etc. Mais moi, je ne suis pas du tout sensible. Alors c'est aussi le traitement du personnage, hein, parce que quand même tout est lié. C'est vraiment catastrophique, hein, faut le dire, la façon dont elle est traitée.
Oui. Bah,
sa scène. Est complètement sabordée à ce moment-là dans le spectacle, parce que donc est-ce que du coup je peux glisser un peu sur la mise en scène?
Glisser, Emmanuel Giuliani surfera ensuite.
Alors, je laisse Emmanuel.
Glisser.
Non, parce que donc on a cette scène qui est très importante de Marguerite au cachot. Elle a eu son histoire avec Faust, mais elle est enfermée parce qu'elle est accusée d'avoir tué et sa mère et son enfant. Et elle choisit, dans le livret, normalement à ce moment-là, de ne pas prendre la fuite avec Faust parce que Méphistophélès est là et qu'elle sent toute son fiel et sa dangerosité. Donc elle préfère mourir sauvée en sauvant son âme que de partir avec ses âmes damnées. Mmh. Voilà. Or, dans la mise en scène de Alex Oyer, et pour moi c'est vraiment un mystère, je ne m'explique pas ce qu'il a voulu faire. Tout est adressé dans cet air à Méphistophélès. Bon, alors moi je veux bien tous les partis pris, il n'y a pas de problème, on peut faire des propositions, etc. Mais le problème c'est que ça n'est pas tenu, ça arrive à ce moment-là, mais c'est insoupçonnable avant, et puis paf, ça s'arrête sans qu'on comprenne. C'est-à-dire que pour moi le gros problème de cette production, c'est que la pensée est courte tout le temps. Alors, certes,
changeante donc,
très,
si je vous suis.
Très changeante et très courte. Par exemple, au début, on voit, pour décrire un tout petit peu, on a un plateau avec 6 fois 6 rangées de tables. 36, exactement. 36 scientifiques à leur table, en tenue stérile, couverte de la tête aux pieds, qui dissèquent ce qu'on imagine être un organe. Bon, parmi ces 36 scientifiques, il y a Faust. Parce qu'après, ils vont tous sortir, on va voir qu'il n'y a que Faust qui reste sur scène. Après, il y a 4 personnages, ou 5, en jaune, qui nettoient. Parmi ces personnages, il y a Méphistophélès. Bon. Et ensuite, Méphistophélès descend, le plateau se surélève, et donc on a deux niveaux. On a le bas avec Méphistophélès, et le haut avec le docteur Faust. Bon. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est presque la créature de Frankenstein. En fait, Faust est Frankenstein, et Méphistophélès est sa créature. Et donc, cette espèce d'âme damnée, errante, bizarre, va basculer du côté des forces obscures parce que ne trouve pas sa place. Je trouvais ça pas inintéressant, pourquoi pas. Mais c'est ça à ce moment-là. Comme à un autre moment, c'est complètement autre chose, qu'à un autre moment, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que c'est une mise en scène qui a des effets, mais qui qui, oui, comme je dis, elle a pensé
courte. Scène par scène, quoi.
Qui travaille scène par scène.
C'est, c'est étrange que vous dites ça. Emmanuel,
l'opéra est Giuliani. Un peu comme d'ailleurs la damnation de Faust de Berlioz. Ce sont des scènes qui parfois se suivent ou parfois ont une très grande rupture, d'autant plus que Boïto intègre des épisodes du Faust de Goethe mythologique, et notamment la rencontre avec Hélène de Troie, qui après Marguerite est une autre, voilà, une autre
ça vie.
C'est vrai que voilà, c'est pas simple.
Alors,
où on choisit, et c'est visiblement pas le cas, de faire un fil conducteur, ou au contraire, on se dit, on donne une personnalité, une force à chacune des scènes. C'est visiblement ce que la mise en scène a essayé de faire, mais au lieu qu'il y a en effet un impact et émotionnel et visuel et dramatique, et qu'on se dise finalement j'ai un patchwork, mais quel voyage je fais, on se retrouve, comme vous l'avez dit, avec une série de tableaux plus ou moins réussis, plutôt plus ratés que réussis, à mon sens.
Mais certains réussis aussi, enfin en tout cas
certains réussis. Le jour de la première, tout ça n'était pas très pro. Il y avait pas mal de ratages, il y avait énormément de bruit dès qu'il fallait manipuler les éléments de décor.
Il y a souvent des très gros décors, assez impressionnants.
Oui, mais ces gros décors, faut-il bien les manier? Visiblement, il y avait les éternels escaliers, les éternelles tables, dont les personnages ne savaient pas très bien que faire. Marguerite a failli se casser la figure à un moment, elle s'est heureusement rattrapée un fil. Donc tout ça faisait un peu... pas très préparé.
Elsa Popine, votre histoire, en fait. Hein.
Vaguement, en beaucoup moins drôle. donc, on n'entre pas du tout dans l'affaire s'il n'y avait l'orchestre et les chœurs.
C'est vrai. Ben, on a Sophie un plateau Bourdieu. Très encombré. Et puis, c'est quand même problématique quand on a besoin de la note d'intention du metteur en scène pour comprendre un peu ce qu'il a voulu faire. Et là, apparemment, il a voulu transformer Méphistophélès en psychopathe. Mais transformer le diable en psychopathe, d'une certaine manière, c'est la moindre rire. Donc, on n'a plus du tout cette dimension de grand manipulateur que devrait avoir Méphistophélès. Et comme il n'y a que Méphistophélès qui intéresse Alex Ollier, le fait qu'il n'ait aucune existence réelle en tant que tel, en tant que manipulateur, bah, il n'y a plus rien.
Alors, juste d'un mot, pardon, mais la direction, puisque je ne vous ai pas entendu sur la musique, Daniele Rustioni.
Alors, Daniele Rustioni, qui est un très grand verdien, on l'avait vu l'année dernière au moment du... Voilà, dans Don Carlos et dans Macbeth, sait faire ressortir, tout là, on l'a entendu dans l'extrait, toutes les audaces, et les ruptures de Boïto, qui peut passer de pages complètement grotesques, farcesques, à des moments de pur lyrisme. Donc ça, et l'orchestre de Lyon, sous sa direction, joue vraiment très bien, parfois plus dans l'énergie que dans la poésie, mais c'est très réussi. Une fois de plus, soulignons l'excellence remarquable des chœurs de l'Opéra de Lyon, qui jouent bien, chantent bien, les voix sont d'une fraîcheur formidable, beaucoup de personnalité, c'est vraiment peut-être le personnage principal. Ils interviennent tout le temps dans le plus grotesque des sabbats de sorcières ou au contraire des chœurs célestes. Ils sont parfaits dans tout et je pense que vraiment la force dramatique du spectacle vient beaucoup d'eux. Pour Paul Groves, qui a été un admirable chanteur et qui est encore un admirable styliste, c'est vrai que c'est très triste de voir sa voix qui s'en va. Il faudrait plus qu'il chante ce type de rôle, ça c'est sûr.
Sur la direction d'orchestre, je ne vous ai pas demandé, Anna Segalevich.
Ah, moi, j'ai aimé la direction d'orchestre qui est effectivement pleine de vigueur, pleine d'élan, comme on l'entend. C'est vrai, comme vous le dites, Emmanuel, ce n'est pas dans la dentelle, ce n'est pas dans le raffinement absolu.
Mais ça procure des émotions.
Ah, mais oui,
très belles,
il y a
aussi
plein de couleurs. Et puis, les cordes graves, notamment les violoncelles, les contrebasses sont incroyablement denses et puissantes. Moi, il y a quelque chose de galvanisant et de... Moi qui me plaît beaucoup dans sa façon
l'unité.
Ouais.
C'est là.
Ouais.
Vous confirmez Sophie Bourdet. Bah,
j'aime aussi sa direction et en même temps j'ai eu la chance de voir le Méphistophélès d'Orange avec Nathalie Stutzmann à la direction d'orchestre qui travaillait vraiment chaque tableau comme une toile de maître qui ciselait les détails. Rustioni fait pas ça du tout. Il est effectivement plutôt dans une recherche d'efficacité. Il y a beaucoup de chaleur et d'énergie donc
c'est
ça nous emporte. C'est très très beau. Mais voilà, j'avais toujours cette petite incitation à comparer à son détriment.
En tout cas, cette production de Méphistophélès, dont vous avez dit beaucoup de choses, me donne peut-être pas forcément envie d'aller à Lyon, mais en tout cas...
C'est une œuvre qui est très rarement donnée, en plus, c'est ça vaut le coup aussi pour ça.
Alors, allez à Lyon, vous avez jusqu'au 23 octobre pour aller découvrir ce Méphistophélès, direction Daniele Rustioni, mise en scène Alex Ollier, cet opéra d'Arrigo Boïto. Ouvrons la page piano avec le coup de cœur d'Anna Segalevitch pour les concertos de Saint-Saëns par Bertrand Chamaillou, c'est chez Erato. Pas comme l'autre qui a beaucoup de notes, mais... trop de notes, mais il y en a quand même beaucoup.
Oui, il y en a pas mal.
Mais il les joue toutes.
Après, les joue toutes.
Bertrand Chamaillou, pourquoi ce coup de cœur ?
Il les joue très bien. Franchement, là, on a entendu hein, toute la vitalité qu'il y a dans le final de ce concerto. C'est vraiment à la fois plein d'élan, plein de romantisme, plein d'agilité, plein de légèreté aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Chamaillou, c'est qu'il combine tout ça. C'est un pianiste qui a de l'esprit et ça s'entend dans son jeu. C'est un pianiste qui est curieux. C'est un pianiste qui aborde plein de répertoires différents, d'ailleurs, hein, de Schubert à John Cage, en passant par Saint-Saëns aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est intéressant. Moi, j'étais assez surprise hein, au départ qu'il consacre un disque à Saint-Saëns, donc concerto numéro 2, numéro 5, et puis des pièces pour piano qui sont très peu connues et d'ailleurs que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir. Et alors, en fait, comme il a beaucoup joué Liszt et Ravel ces temps-ci, ces dernières années, il dit que pour lui, le trait d'union entre Liszt et Ravel, c'est Saint-Saëns, que Saint-Saëns a été adoré de son temps, décrié par certains, etc., mais qu'aujourd'hui, voilà, il peut être un petit peu considéré comme académique, ou sa musique manquant de profondeur, un petit peu superficielle, etc. Et pour lui, pas du tout. Elle a une profondeur qui est là. Et alors, franchement, là, si on ne l'entend pas à travers ce disque, vraiment, il part la musique de Saint-Saëns, avec d'ailleurs Emmanuel Krivine et l'Orchestre National de France, vraiment de ses plus beaux atours. C'est-à-dire que là, on entend la vigueur, la joie, la pétillance de ce concerto. Dans l'andante de l'Égyptien, il y a une sensualité qui est incroyable. Là, dans le concerto numéro 2, il y a cette cadence cathédrale au début qui est absolument remarquable, majestueuse, grandiose. C'est très beau de bout en bout et on a ces pièces pour piano qui sont quasiment jamais jouées. En tout cas, moi, je les connaissais pas. J'ai entendu notamment les deux études opus 111 avec beaucoup de plaisir, notamment celle en tierce, comment elle s'appelle, tierce majeure et mineure, qui est pleine de charme, qui est d'une grande délicatesse. Là, c'est un piano qui est intime, qui est plein de charme et de subtilité. C'est vraiment très très beau. Voilà, c'est un disque qui est plein de finesse, de brio, de densité et qui aussi, voilà, cette virtuosité est galvanisante. Donc moi, c'est un de mes grands coups de cœur de cette rentrée avec l'ONF qui est vraiment en pleine forme avec Emmanuel Krivine.
Oui, ils avaient d'ailleurs donné un concert le 13 septembre ici à l'Auditorium de Radio
oui,
France.
Oui, absolument.
Mais il reste un concert, Bertrand Chamaillou, sur ce programme. Alors, c'est marqué concert, mais c'est pas marqué avec l'ONF. Alors, ce sera peut-être avec, je ne sais pas avec qui ce sera, à l'Opéra de Bordeaux. Le 14 novembre, ce disque Saint-Saëns. Faut-il réhabiliter Saint-Saëns? Oui, non, Emmanuel Giuliani?
Oh, en effet, quand c'est Bertrand Chamaillou qui le joue, oui. Et puis, il y a des mélodies magnifiques de Saint-Saëns. Oui, c'est un compositeur que nous, a priori, ont tort de classer dans les has-beens.
C'est un peu plus long que oui ou non. Sophie Pardon. Bourdet.
Ah, complètement. Et merci à Bertrand Chamaillou. À Bertrand Chamaillou d'œuvrer en ce sens. Et d'avoir trouvé dans l'Orchestre National de France un complice aussi volubile et en accord avec ce qu'il voulait nous faire passer.
Comme il l'avait fait pour César Franck, il y a quelques années.
Ce n'est pas faux, Emmanuel Giuliani. Les concertos de Saint-Saëns 2 et 5, et puis les pièces pour piano seul, c'est le programme de ce disque publié chez Erato par Bertrand Chamaillou.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de notre page piano, pour finir cette dispute musique ce soir avec un disque, celui que Leif Ove Andsnes vient de graver pour Sony Classical des Ballades et Nocturnes de Chopin. On avait parlé de ce pianiste dans la dispute pour son précédent disque, le norvégien, qui avait consacré justement aux œuvres pour piano de Sibelius, un corpus assez méconnu, justement son disque précédent. Là, c'est l'inverse avec Chopin, 4 ballades et 4 nocturnes choisies. Écoutons un extrait. Voilà pour cet extrait de ce nouveau disque de Leif Ove Andsnes, Ballades et Nocturnes de Chopin, enfin évidemment une sélection. Emmanuel de Giuliani, vous commencez ?
Oui, si vous voulez.
Je veux bien.
En lisant le livret et ce que dit Leif Ove Andsnes, on prend conscience quand
bien,
on est...
Vous.
Je ne sais
comment
pas.
Vous dites ?
Non, je dis que
vous,
oui, enfin je voilà, voilà ce grand pianiste. On a tendance à se dire les ballades de Chopin, tous les pianistes de cette envergure-là, évidemment, ils les jouent tout le temps, ça fait partie et ça pose pas de problème. Et il nous explique que la quatrième et dernière a été
si
pour lui,
mais...
voilà, une sorte de Graal qu'il avait beaucoup de mal à atteindre et que il a construit en fait maintenant à un âge de maturité et de plénitude. Et pour nous, il l'a atteint depuis bien longtemps déjà. Enfin ce programme autour des ballades de Chopin, parce que la quatrième lui semble enfin accessible, il a quelque chose à y dire, et musicalement, et techniquement, et au point de vue de la narration. Et en tous les cas, en ce qui me concerne, moi je ne peux que adhérer à, d'abord au programme, à la manière dont le choix des nocturnes s'intercale entre les ballades, qui crée, là on vient d'entendre ce petit moment qui semble une comptine que chanterait doucement une maman à son enfant, ou une voilà. Et puis après il va y avoir toute la passion qui va arriver juste au moment où on a chanté. Mais c'est très bien, ça laisse une surprise pour les auditeurs qui n'auraient pas eu encore la chance d'entendre ce disque. Donc tout
ils n'ont pas encore eu la chance de vous entendre parler sur ce disque.
Tout est extrêmement bien composé et surtout permet vraiment d'avoir la palette parfaite des qualités de ce pianiste, d'Andsnes, c'est-à-dire à la fois une suprême élégance, beaucoup de retenue, mais qui n'obère jamais l'émotion et la finesse du propos, un toucher absolument magnifique, jamais l'ombre d'une esbrouffe. Mais ça creuse au plus profond de la musicalité, donc c'est beaucoup plus efficace que s'il voilà étalait toute une sentimentalité qui n'a rien à faire ici. Alors on dit souvent Chopin, il faut pas le jouer sentimental, évidemment, mais il faut le jouer quand même plein de voilà plein de frémissements, plein de vibrations, plein de frissons, et ils sont là. mais voilà, raconter avec une telle, à la fois une telle tendresse, une telle hauteur de vue, une telle noblesse, moi je trouve c'est un disque vraiment irrésistible parce que, comme ces personnes très belles et qui ne le savent pas, bah voilà, elles sont d'autant plus séduisantes qu'il y a cette espèce de, voilà, de beauté qui n'a pas conscience d'elle-même. Alors lui, il a certainement conscience du fait qu'il joue très très bien, mais jamais il ne noue la scène. Et ça, c'est magnifique. C'est un très beau cadeau.
Bon, je retiens cette phrase. Il ne faut pas jouer sentimental, mais on pourra discuter là-dessus si on a le temps. Anna Segalevich.
Eh ben moi je suis pas d'accord avec vous Emmanuel. J'aime beaucoup Life of Vincennes. J'ai adoré son précédent disque Sibelius. Je l'aime dans les trois dernières sonates de Schubert. Je l'aime dans Le Voyage d'hiver. Je l'aime dans plein de choses. Mais je dois dire que là, je n'ai pas été prise parce que pour moi, ce disque, vous parlez de retenue absolument, mais les ballades, elles sont construites en permanence dans la retenue et le lâcher prise. Et je pense que ça doit avancer en permanence. C'est très difficile à construire parce que ça paraît être des petites formes, mais qui en même temps sont très répétitives. Par exemple, la troisième ballade, le thème qui reprend en permanence et qui doit se réinventer tout le temps et se construire
et
évoluer.
Non,
ben, je ne
trouve
pas.
Ah oui. Alors moi,
je ne trouve pas qu'il
le
réinvente.
Je trouvais qu'il y avait une
narration. Je relève vos mots élégance, retenue, touchée, pas d'esbrouf. Vous avez complètement raison. Mais pour moi, il manque quelque chose. Il manque de la passion. Il manque de la folie. Ça manque de débordement. Moi, je n'ai pas été émue dans la quatrième ballade ni dans la première. La deuxième est belle. Je suis d'accord. Mais par exemple, justement, ce moment qui déborde après où ça fait ta-la-la-la-la-la, bah il est joué une première fois et il est tout de suite joué une deuxième
fois. Pas de la même façon.
Et pour moi, il doit y avoir de la surenchère. Ça reprend et c'est plus. C'est une musique qui surgit. C'est un torrent de notes, de lyrisme, de romantisme et qui change en un clin d'œil. Tout d'un coup, ça reprend très délicatement.
Il faut rester en face du micro quand même. C'est toujours mieux.
J'aime beaucoup le début parce qu'en effet, c'est une simple expression et c'est très beau cette intimité qu'il arrive à créer. Mais pour moi, ça manque après. C'est un Chopin qui n'est pas assez viscéral. Vous savez, il y a une expression qui s'appelle. Pardon, je laisse Sophie parler.
Mais gardez votre expression. Oui, okay. Moi, je garde ma question, mais vous avez répondu,
vous,
Sophie Bournet.
Moi, c'est un disque que j'admire beaucoup, mais que j'ai du mal à aimer complètement. Mmh. Exactement pour cette raison, c'est que c'est du très beau piano. Tout est admirable, et je vous suis complètement, Emmanuel, sur tout ce que vous en dites. C'est extrêmement bien construit, c'est contrasté, c'est sensible, c'est remarquablement pensé. Le programme est formidable, et j'ai cherché vraiment à savoir pourquoi j'avais autant de mal à, malgré tout, m'attacher à ce disque, c'est qu'effectivement, je trouve que on est trop dans le contrôle, tout est très contrôlé, et ces phases justement de Chopin fait quand même des tempêtes, des orages au milieu de toute cette élégance. Et ces tempêtes et ces orages, bah là aussi, c'est encore très contrôlé, c'est de la tempête extrêmement sage. Et du coup, voilà, j'ai cette frustration de ne pas être emportée dans la folie qu'il y a dans ces ballades.
Ouais, alors je reviens à ma phrase. Il ne faut pas jouer sentimental. Et pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas jouer ? Qu'est-ce qu'on entend par sentimental ? C'est ça la question. Moi, j'entends effectivement la question de la passion, la question d'une folie possible aussi par moment. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas les mêmes oreilles que vous, mais que je n'ai pas trouvé dans ce disque-là.
Non, quand on dit souvent il faut pas jouer Chopin sentimental, on fait référence à des interprétations dégoulinantes, incroyables, dégoulinantes.
Mais un peu
sentimental, c'est pas un gros mot.
Disons avec, je sais pas comment dire, sentimentalisme
avec moins de glucose, quoi.
Voilà, exactement, ouais. et à la limite du mauvais goût. Non, moi, au contraire, l'émotion, elle est venue justement de...
Du contrôle.
Voilà. Non, pas du contrôle, je dirais
la pudeur.
Du naturel.
On essaye, hein.
Oui, mais... oui. Mais bon, mais c'est bien, au contraire.
Mais oui, bien sûr.
En plus,
bah,
c'est des répertoires tellement joués.
Bah, bien sûr.
Donc là, heureusement qu'il y a des interprétations différentes et qui touchent certains et pas d'autres. Voilà, moi, ça m'a fait un peu l'effet comme certaines gravures où on joue sur les noirs, sur les gris, sur des nuances. Ici, c'est assuré, là, ça ne l'est pas. Et un monde naît d'une économie de moyens. Et voilà. Et moi, ça a fait visiblement, ça n'a pas fait naître ce monde d'émotions chez vous. Moi, cette économie de moyens m'a bouleversée justement par le fait qu'il n'y avait aucun effet bouleversifiant.
Alors, je vous interromps plus tout à l'heure, Anna Segalevich, sur cette expression.
Oui, l'expression. Le schmaltz. C'est une expression qu'on peut à certains musiciens. Le schmaltz, c'est de la graisse d'oie. en yiddish. Et c'est quelque chose qui est très important dans le liant, en fait. On met ça dans les boulettes pour qu'elles soient, voilà, pour qu'elles aient bon goût et puis pour qu'elles soient pas sèches. Et,
enfin, une dispute gastronomie.
Et il faut doser le schmalz. C'est-à-dire qu'il l'attendait. Faut pas qu'il y en ait trop, parce que là, ça va pas. Mais il faut qu'il y en ait quand même
mais
un peu.
Il faut qu'il y en ait.
Et là, pour moi, il manque le schmalz un peu, quoi.
C'est-à-dire, c'est le Chopin qui jouait du Bach tous les matins et qui admirait Mozart par-dessus tout. Et Bellini. Et moi, je l'aime, ce Chopin-là. Mmh. Mais oui. Bon. On pourrait, en effet.
Mais ça reste très
Sophie
beau.
Mais
bien, ça reste extrêmement bien réalisé. Ça reste magnifique.
Lui, c'est juste très, très petit quelque chose.
Fois, hein. Vous savez, des fois, on est dans devant une très belle œuvre qu'on admire absolument pour sa façon, pour le génie de l'artiste. Mais ça ne nous procure pas d'émotion. Enfin, si ce n'est celle de voir une cathédrale très bien bâtie. Il y a un grand silence.
Non, mais je vais méditer là-dessus.
Oui, il faudrait que je ferais chacune de mes phrases une minute de silence et de
méditation. J'étais en train de me demander si, devant les cathédrales qu'on admirait, on n'avait pas d'émotion. On peut avoir les deux.
Devant certaines. Certaines. Et d'autres ne vous procurent rien. Mais c'est peut-être ce côté scandinave qui a un autre rapport à la religiosité, à l'émotion, au débordement ou à l'absence de débordement. Je fais une généralité horrible, mais pas complètement fausse.
Pas
vous voyez
impossible,
ce que je veux dire.
Parce que oui. J'ai souvenir de samedi soir en Scandinavie où ça débordait beaucoup, au contraire. Non, je ne sais pas.
On ne pourrait pas fouiller davantage dans ces souvenirs privés. Emmanuel Giuliani, vous voulez dire un dernier mot, Anna ?
Non, mais Emmanuel a raison dans le sens où on sent qu'il a un rapport très intime. C'est ça, c'est-à-dire que moi, ça ne me touche pas, mais en effet, c'est très nourri. Tout est réfléchi, tout est pensé et tout est senti dans la façon qu'il interprète ses œuvres. C'est ça qui est un peu paradoxal. C'est qu'à la fois, c'est extrêmement nourri et senti, et en même temps, moi, ça ne me touche
pas. Ça ne vous le communique pas.
Voilà.
Écoutez par vous-même ce disque de ballades et nocturnes de Chopin par Leif Ove Andsnes. C'est chez Sony Classical. Pas toujours facile à dire. Puis quelques concerts à venir le 11 décembre au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, le 16 décembre à Bruxelles. Là, ce sera un programme Schumann, Janáček, Bartók pour ces deux concerts-là. Il sera avec Mathias Gorneux à Paris le 23 février pour un programme Schubert. Là, on verra Anna Segelevich dans les rangs du public, certainement.
Oui,
et puis, programme Mozart et Haydn à Grenoble le 16 mai, à Évian le 17 mai et à Paris le 18 mai. Et Sarah Dion nous a rejoint comme chaque soir pour conclure cette émission avec le jeu de la dispute. Et d'abord, Sarah, un rappel de la question d'hier soir pour nous donner ensuite sa réponse.
Qui a réalisé le film Le goût du saké, sorti en 1978 ? Yasujirō Ozu.
Très bonne réponse. On fait gagner ce soir des invitations pour la FIAC, ça tombe bien, ça ouvre jeudi, ça durera jusqu'à dimanche, c'est au Grand Palais à Paris, et hors les murs aussi, il y a d'autres lieux pour cette foire internationale d'art contemporain. Quelle est la question, Sarah ?
Combien de pays sont représentés cette année à la FIAC ?
J'en ai pas la moindre idée. Si vous avez la bonne réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales, tout cela à auditeurfc@radiofrance.com. Et demain, nous serons où ? À la FIAC, au Grand Palais, pour une émission, pour une dispute habituelle consacrée aux arts plastiques le mercredi. Ce sera à 19h. Nous serons bien sûr donc en public avec Corinne Rondeau, Yasmine Yossi et Stéphane Coréard. Nous parlerons de l'exposition Dorothy Lange au Jeu de Paume à Paris, Géométrie Sud, du Mexique à la Terre de Feu, c'est à la Fondation Cartier. Et puis nous ferons un choix parmi les galeries présentes cette année à la FIAC.